Bonjour et bienvenue à ce je sais plus combienième podcast de Mac Québec, l'émission du 6 octobre après une longue pause parce que il y a eu toutes sortes de choses, il y a eu Podcamp entre autres qui a pris quelques temps. Laurent fou de même est parti au Japon, écoutez,
malade.
De retour d'une tournée internationale, Laurent, ça a été le fun le Japon?
Oui, c'était le fun. J'ai raté mon vol de retour, mais c'est intéressant comme aventure, stressant mais intéressant.
Mais si on regarde les dernières émissions, on en a fait une par mois depuis le mois de juillet.
C'est quand même pour un été, là, on s'entend
bon
que c'est plus tranquille.
Et là, on redémarre de plus belle. Mais mon nom est Sylvain Grandmaison, vous me connaissez, vous pouvez me retrouver un peu partout sur le web. Je suis omniprésent, omnipotent, comme mes collègues ici à côté. Moi, vous pouvez me retrouver sur québecbalado.com ou phono.ca. Laurent Maisonnage?
Je n'aurais pas l'ambition d'être omnipotent, mais c'est toujours Laurent Maisonnage.
Donc, toi, t'es important ou...
Important, oui.
Important. Ah, important, OK.
Vous pouvez me retrouver sur mon blog, zelaurent.com. Je vous parlerai de marketing social, de vidéos internet, etc. Je serai heureux de discuter avec vous.
Sans oublier que tu vas nous parler de Île sans fil. Hein.
Ça, Île sans fil,
oui,
oh
c'est
là
très
là.
Important. Laurent Lassalle, on
Hello.
Te retrouve parfois
oui.
sur le web à quelque part.
Mes paroles s'envolent pour de la musique et du chialage et du web et tout ce que tu veux. Ça, c'est mon blog. Sinon, ma14.com pour le côté entrepreneurial.
Et toi, du chialage, tu fais ça?
Non, jamais. Dans le fond, j'essaye, je joue un personnage parce que dans le fond, j'aime tout.
OK.
Tout. Absolument tout.
Je suis curieux de te voir un bonjour sans ton costume du personnage que tu joues.
Ouais, j'ai les cheveux longs, blonds, pas de barbe.
C'est bon.
Je ressemble à Alexis.
Est-ce qu'on va le couper au montage? C'est ce qu'on verra.
Non, je coupe rien.
Tu coupes rien cette fois-ci. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet ou des sujets. Quelque chose qui nous a tous surpris alors qu'on avait annoncé, on pensait qu'il ne serait pas là. Steve Jobs a été au keynote cette fois-ci.
Surtout que moi, je suis revenu du Japon, je n'ai pas suivi ça partout. Mais j'ai vraiment eu la nouvelle en retard. Mais non, c'est ça, le grand retour du grand. Il a mentionné justement à son opération l'importance de signer la carte de don d'organes parce que lui, il a eu... c'est une opération au foie, je pense.
Il y a eu une transplantation de foie, oui, parce que bon, son foie était attaqué.
Il a mentionné que c'était un jeune dans la vingtaine qui avait subi un accident d'automobile, malheureusement.
Sauf que vous l'avez vu le keynote, ou du moins un
peu. Oui, non, je l'ai vu au complet.
Oui, il a l'air assez attaqué, hein, physiquement. Là.
Oui, il est beaucoup plus mince. Là, c'est...
Ouais,
il a dit lui-même, je suis vertical. Je pense que c'était une allusion sur le fait qu'il a perdu du poids.
Oui, puis pas juste ça. Écoute, sa voix est changée, tout est changé.
Il est plus posé, mais écoute...
Vous êtes toujours à Mac Québec. Là. On parle de Mac, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Steve Jobs, c'est quand même un icône. C'est l'icône de Apple. Oh, c'est pour ça qu'on accorde autant d'importance
également,
à son retour, qui est très symbolique.
Souligner le travail extraordinaire de l'équipe qui a dirigé Apple lors de son absence, ça a été quand même un moment important.
Oui, la pomme n'a pas arrêté de tourner.
Non, c'est ça, ils ont profité de l'occasion pour shiner, ce qui était vraiment la chose à faire. Donc,
et l'action Apple a encore pris malgré l'absence de Steve Jobs.
Ouais,
l'action se portait bien. Ce qui est assez important pour une entreprise comme ça, c'est se dire un jour ou l'autre, il va partir.
Parce qu'il ne faut pas parier
va devenir l'entreprise.
C'est sûr que quand il annonce qu'il est malade, l'action baisse un petit peu, mais ça dure juste quelques jours, ça revient, puis c'est correct.
L'entreprise s'en va et ça revient.
Pour l'événement, ce qu'on a annoncé, c'est 30 millions d'iPhones vendus depuis l'introduction. Ça fait un peu plus de 2 ans. Donc, c'est quand même intéressant. L'iPhone OS 3.1 a été présenté. L'avez-vous installé, messieurs, sur vos appareils respectifs?
Je viens tout juste, il y a 48 heures, de l'installer en jailbreak.
OK. Okay.
Parce que le jailbreak est sorti ce week-end par la dev team.
L'autre semaine d'avant. Je l'ai installé là. Sur le 3GS.
Pour 3GS, excuse-moi. Là.
Ah, oui.
Pour la version 3GS, c'était cette fin de semaine.
Okay.
Et ça s'est bien passé, sauf que j'ai dû le unlocker. Unlocker, c'est-à-dire c'est pour l'utiliser avec n'importe quel fournisseur d'accès.
Mm-hmm.
Sinon, il ne retrouvait pas Rogers avec qui j'ai un contrat normalement.
C'est Red Snow ou Ultra Snow, c'est quoi le nom?
Ultra Snow pour le Unlock.
Okay.
C'est pour ceux qui ont déjà fait un jailbreak, c'est assez facile. Par contre, si vous venez d'acheter un 3GS ou un 3G ou un iPod iPhone qui est déjà au 3.1, là, vous ne pourrez pas le jailbreaker.
Pour l'instant.
Oui, pour l'instant.
Parce qu'il y a toujours des moyens, de la magie. Donc, mais c'est ça, le 3.1, qu'est-ce qu'il y a de changé à part des bug fix? Genius recommande maintenant des applications dans le... dans le Apple App Store, mais je vois pas comme...
Ouais, bah, Genius, j'avoue que je l'utilise pas trop déjà sur iTunes en version normale.
Ben, on a présenté iTunes 9 avec Genius qui crée ses propres mix. Je l'ai pas essayé encore. Mm. C'est quand même intéressant qu'il fasse évoluer, là, mais je pense pas que c'est révolutionnaire.
Non.
La synchronisation dans iTunes 9 est maintenant améliorée. Puis on peut, comme tu l'avais souligné lors de la dernière émission, ce qui avait été... dans les rumeurs, on peut maintenant modifier l'ordre des applications de notre iPhone à même iTunes directement.
Ouais, c'était
ça temps. Fait vraiment du bien.
Oui. Ben, quand on se retrouve avec, comme moi, 6 pages d'applications, c'est assez pratique de pouvoir gérer ça sur l'écran d'ordinateur plutôt que sur l'iPhone.
Puis le partage...
Juste 6 pages? Non, je te taquine.
c'est pas le nombre des pages qui compte. C'est ce
la qualité
avec.
Du contenu des applications qu'on a.
On peut maintenant partager les fichiers plus facilement entre ordinateurs. Ça a toujours été un petit peu un backlash pour quelqu'un qui connaissait pas iTunes. T'avais une librairie de musique partagée. Tu prenais des fichiers de musique, là, tu voulais glisser dans la tienne. Ça marchait pas.
Tu pouvais les lire, mais tu pouvais pas les importer.
Les transporter. Là,
mais tu pouvais les lire très facilement quand même.
Oh oui,
et de Mac à PC.
Mais il n'y avait pas de message d'erreur pour te dire que c'est impossible. Puis ça, je commence à frustrer un peu. iTunes, là, des messages d'erreur, non, on n'en a pas. Tu essaies d'ouvrir un fichier qui est supposé être, qui est possible d'ouvrir avec iTunes. Il l'ouvre pas, il se passe rien, puis il te dit pas. Ça, c'est chiant.
Ben comme ça, tu as l'impression que tout va bien.
Ouais, ouais, c'est ça.
Moi, ça te manque les écrans bleus.
Ben, c'est ça. Donc, ça fait le tour, je pense, d'iTunes 9.
Oui, ben, la seule chose, c'est qu'on dit que iTunes est toujours en 32 bits et non en 64.
Oh, wow.
Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas le nombre de bits qui compte. Je veux dire,
c'est d'en avoir une bien importante.
Non,
c'est
mais
ça,
pour iTunes, franchement, c'est
quand même
pas une application super puissante. Là.
Ouais, non, mais c'est quand même surprenant qu'elle soit pas passée. 64 bits.
Ouais,
mais bon,
c'est peut-être que ça change nos vies. C'est quand même surprenant aussi.
C'est peut-être pour la rétrocompatibilité, justement, parce qu'il y a encore beaucoup d'ordinateurs qui fonctionnent en 32 bits. Et peut-être que s'ils l'avaient passé en 64, ça aurait posé problème.
C'est parce qu'en 64, t'es plus en carbone. Fait que.
On va perdre nos amis.
Oui. iTunes, le iTunes Store est redesigné, beaucoup plus beau, beaucoup plus. Il ressemble plus à un site web. Franchement, avant, pour lire des aperçus de musique, on avait les lignes en bas, puis quelqu'un qui connaît iTunes sait qu'il peut double-cliquer pour le lire. Mais là, maintenant, c'est directement sur l'interface. Ça fait vraiment comme si c'était sur un petit site en flash. Je trouve que c'est plus
il y a beaucoup d'améliorations. Le seul truc qui est moins bien, c'est, par exemple, tu es dans la section podcast, tu veux faire une recherche avancée, tu ne peux pas faire une recherche avancée dans la section podcast. Tu retournes sur le home base de iTunes Store pour faire une recherche avancée. Sauf que la recherche avancée, il y a plus d'options. Donc, elle est meilleure qu'avant, mais il faut que tu saches où aller. Donc, c'est moins évident de chercher des podcasts maintenant.
Sinon, Apple a présenté iTunes LP. Je ne sais pas si tu as vu cette présentation-là, toi, Sylvain, ou toi,
oui,
Laurent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va révolutionner?
Moi, je pense que c'est sur les anciennes générations qu'ont connu le vinyle et qui veulent peut-être retrouver des belles pochettes avec des petits plus comme ça.
Ça fait des mots de DVD, là, un petit peu, je ne sais pas.
Oui, je pense.
C'est des romans interactifs.
C'est pour plaire à l'ancienne génération, puis pour se dire, si vous l'achetez, on offre un petit plus que vous n'aurez pas si vous le piratez.
Oui, à l'ancienne génération, mais bon, c'est sûr que c'est agréable parfois d'avoir
partie,
des... Oui, c'est ça. Toi aussi, je te signalerai.
Je suis plus jeune que toi.
T'es plus jeune que moi. T'as quel âge?
J'ai un an de moins que toi.
Pour vrai?
Oui.
Ça change.
Sauf qu'une an de moins en France, c'est comme d'avoir 5 de plus ici.
Quoi, c'est en année de chien, si tu veux, en France?
Oui, c'est ça. c'est quand même intéressant, mais est-ce que ça va convaincre les gens d'acheter plus sur iTunes Store? Je pense pas.
L'affaire, c'est que là, il y a quoi? Il y a peut-être 8 albums ou 10 albums qui offrent ça. Puis eux, ils permettent, ils donnent les logiciels aux maisons de 10 pour qu'ils puissent produire ça. Est-ce qu'ils vont embarquer? Est-ce que tout le monde va emboîter le pas? Je suis pas sûr.
Non, c'est ça.
Fait que ça va finir comme le Laserdisc puis la vidéo bêta.
Oui, mais aussi, ça dédouble le travail. Chaque maison de disque a son site, un site pour son artiste. Ils ont déjà de l'extra là-dessus que tu peux aller chercher. Là, être obligé d'en remettre à chaque fois que tu fais un album, écoute, c'est...
Oui, mais iTunes, c'est la première boutique en ligne.
Oui, c'est sûr.
Oui, il y a ça, mais c'est pas... là, il faut voir si Apple va essayer de forcer un petit peu les magasins de disques pour en produire ou vont juste laisser ça libre à eux. Parce que s'ils ne forcent pas, en tout cas, je ne suis pas sûr que ça va lever.
Moi, je pense que c'est principalement un plus pour inciter les gens à acheter au lieu de pirater.
Ouais.
Les bonus DVD, c'était la même chose. Hein. C'est pour dire, si vous téléchargez votre film, vous n'aurez pas les bonus que vous retrouvez dans
le...
Est-ce que ça influence tes achats?
Ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté un support physique.
Ouais. Merci.
Pour répondre à ta question.
C'est ce que je me disais. Ouais. Moi, les seuls supports physiques que j'achète, puis c'est rare, c'est pour mon fils. Des fois.
Ouais.
Sinon, on a présenté la baisse de prix des iPods, des iPod Touch, puis des nouvelles couleurs pour l'iPod Shuffle.
Ouais.
Puis finalement, la grosse surprise à la fin, c'était les nouveaux iPod Nano avec caméra.
Oui.
Donc, Laurent Maisonnave, c'est ton cue.
Ben, parce qu'on pensait que ça allait arriver sur l'iPod Touch quand même.
En toute logique, on s'est dit, hey, l'iPod Touch, là, qu'est-ce qui lui manque? C'est la caméra. Et pourquoi ils l'ont mis sur l'iPod Nano? Alors, ma version à moi, c'est que c'est pour continuer à faire vivre cette gamme-là, parce qu'elle avait une trop forte concurrence de la part du iPod Touch. Ils lui ont rajouté la caméra et puis ils ne l'ont pas mis à l'iPod Touch. Parce que sinon, quand on regarde la différence de prix, la différence de fonctionnalité, l'iPod Nano, c'est difficile encore de le faire vivre. Donc, je pense qu'ils ont donné ce petit plus. Mais c'est un appareil qui va être appelé à s'éteindre.
Oui, ils l'ont mis sous respirateur artificiel parce que...
Exactement.
Ouais, la prochaine génération... À moins qu'ils fassent un nano-touch, là, mais bon, ça me surprendrait.
Mais il en était question, alors si vous vous souvenez des rumeurs, il y a un an, on parlait d'un iPhone Nano, c'est-à-dire une version moins haute qui aurait pu plaire justement plus aux femmes, c'est-à-dire qui prend moins de place dans le sac à main. Finalement, iPod Touch Nano pourrait faire du sens en même temps qu'un iPhone Nano. C'est dans les rumeurs que je relance.
Sauf que les femmes, ils ont juste enlevé deux trucs dans leur sac à main puis mettre leur iPhone dedans. Non, je fais des blagues.
Faudra qu'on prenne un témoignage à ce sujet.
Oui, c'est ça. Snow Leopard? Qui voulait parler de ça? Toi? Laurent Maisonnat?
Ben, Snow Leopard, non.
OK, c'est la chronique d'Alexis.
Et c'est la chronique d'Alexis
qui va venir plus tard.
On a un invité spécial qui est en direct. Il a beaucoup de chance quand même, parce qu'il travaille à la COP de l'UQAM. Et ils lui ont laissé le temps de venir intervenir, de faire une petite chronique sur le podcast de Mac-Québec. Moi, je pense que d'avoir une job comme ça, là, moi, je la garderai à ta place, Alexis.
Ouais, c'est ça.
Et ce qui est bien, c'est qu'il a une liste de petits trucs.
Ouais.
Tu l'as en ligne?
Oui, tout à fait.
Et il a une liste de petits trucs vraiment pratiques pour utiliser Snow Leopard. Il me l'a montré ainsi qu'à Benoît Descaries lors du PodCamp Montréal.
Oui, on l'appelle pas pour liste.
Ouais, c'est ça. Je partais pour te dire. Je pense qu'on va attendre qu'il en parle.
Mais non, mais on était sur la pré-conférence. Comment s'appelait déjà la conférence?
La conférence d'Apple, c'était It's only rock and roll, but we like it.
Bon.
Là, on reparlait de Snow Leopard. Puis en toute logique, c'est bien d'avoir les petits trucs.
Donc, on appelle Monsieur Alexis
Cornelier, directeur des opérations chez Il Sans Fil, le leader mondial à Montréal de l'Internet sans fil gratuit.
Et le seul, donc. Est-il
oui,
là?
Allô.
Hey, bonjour.
Salut, Alexis.
Oui, allô.
Et tu sais, tu es live sur l'émission, en fait.
T'as l'air intelligent
devant
tout le monde.
C'est ce que tu veux dire.
Ben, je voulais que tu t'en rendes compte par toi-même. Non, je fais des farces.
Merci, Laurent.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, ça va bien, toi-même? Oui. Merci de te rejoindre.
On fait semblant qu'on ne s'est pas parlé avant.
Oui, c'est ça.
OK, excellent.
Comme à la télé, tu sais. Bonjour.
Fais semblant que tu es tout surpris.
Oh, vous me prenez en plein travail. Bonjour.
Donc, vous avez le droit à un appel du public.
Oui, répondre aux questions.
Je suis bien à la classe de
Pour aller directement au sujet, on t'appelle, Alexis, pour avoir tes secrets à toi sur Snow Leopard, les petits trucs pratiques que tu m'avais présentés d'ailleurs.
Au cours des derniers jours, là, Snow Leopard est sorti depuis le 28 août. Et évidemment, à chaque fois qu'il y a un nouveau système qui sort, il y a aussi beaucoup, beaucoup de petits raffinements qui sont faits dans le système d'exploitation, des petits trucs pour améliorer la vie des utilisateurs. J'en ai lu beaucoup. La plupart de ceux que je vous présente aujourd'hui viennent du site de macworld.com, mais j'en ai trouvé d'autres ailleurs. Puis en fouillant moi-même, j'en ai trouvé dans le système. Donc j'en ai 6 petits à vous présenter aujourd'hui. Oui, Laurent?
Numéro 1.
Numéro 1. Donc, c'est dans Aperçu, qui est rendu maintenant à la version 5. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'améliorations. Une de celles-là, c'est, vous savez que l'intégration du glisser-déposer est beaucoup plus importante dans macOS 10 que dans Windows, par exemple. Donc, à partir d'un document PDF dans Aperçu, quand vous ouvrez Aperçu, vous avez le tiroir sur le côté avec toutes vos pages dedans. Oui. Vous êtes capable de sélectionner ces pages-là et simplement en les glissant sur le bureau, ça va créer un nouveau document PDF seulement avec ces pages. Cool. Donc, en allant chercher l'essentiel.
Est-ce que tu veux dire qu'on peut faire du montage également si on a deux documents PDF par l'intermédiaire d'Aperçu?
Je n'ai pas testé, mais je crois que c'est maintenant possible, effectivement, de mixer deux documents PDF ensemble.
Oh, ça, c'est intéressant. Ce qu'on pouvait juste faire avec Acrobat Pro
avant. Exactement, oui.
Exactement. Ben, Acrobat ou Acrobat Pro. Là.
Ouais.
Mais le fait d'aller chercher l'essentiel de certaines pages PDF puis d'en créer un document,
très pratique.
C'est quand même assez intéressant.
Très pratique. Oui. Numéro 2?
Numéro 2, en fait, ça, c'est un truc qui est probablement pas nécessairement Snow Leopard, mais c'est un petit truc que j'ai trouvé cette semaine. Donc, quand vous faites une recherche dans Spotlight, par exemple, vous voulez, souvent on utilise Spotlight comme lanceur d'application. Donc, on va taper iTunes dans Spotlight, mais pour certaines raisons, plutôt que de lancer l'application, on voudrait simplement se retrouver dans le dossier où cette application-là se trouve ou dans le dossier d'un fichier qu'on cherche. Donc, dans Spotlight, on fait une recherche d'un élément. Une fois que cet élément-là est sélectionné, par exemple, si c'est une application comme iTunes, ben, des fois, on ne veut pas nécessairement lancer iTunes, on voudrait peut-être juste aller dans le dossier où se trouve iTunes. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est commande et la touche Enter, et ça va nous amener dans le dossier qui contient l'application ou le fichier, plutôt que d'ouvrir l'application ou le fichier.
OK.
D'accord. Commande Enter ou commande clic?
Oui, probablement, effectivement. Donc, d'accord. On rajoute la touche commande et ça va nous amener. C'est pas un truc, comme je le mentionnais, c'est pas un truc nécessairement Snow Leopard.
Non, c'est pratique. Mm-hmm. Numéro 3?
Donc, numéro 3, c'est celle que je t'ai montrée justement au PodCamp. Donc, depuis toujours, quand on minimisait les fenêtres, elles s'en allaient dans la portion droite du dock et le dock était rapetissé à chaque fois. Donc, si vous aviez plein de fenêtres de minimiser dans le dock, votre dock devenait tout petit, tout petit. Donc, ce que Apple a fait dans la version 10.6, c'est qu'ils ont permis d'activer une fonctionnalité qui s'appelle minimiser dans l'icône du dock. Donc, si vous avez plusieurs, okay. Je vais donner un exemple avec Safari, vous avez plusieurs pages web d'ouvertes, ben plutôt que quand vous allez les minimiser, elles vont s'en aller à droite du dock, ben elles vont se cacher, si vous voulez, en arrière de l'icône de Safari.
Oh, très ça, c'est intéressant.
Oui.
Dis-moi, c'est pas la même chose qu'on a sur Windows 7?
J'ai pas essayé de...
Oui, sur Windows, ils l'ont, mais c'est plus évident parce que Vista quand tu roll 7, over non? sur l'icône, tu vois un aperçu justement des fenêtres genre en surface. Je trouve ça plus intéressant, moi, personnellement, que de cliquer, de maintenir le clic, puis là, ton ordinateur est en train de travailler, il y a de la misère, là, il essaye de te montrer les fenêtres que t'as, puis les fenêtres en dessous qui sont cachées.
Mm. Ben, ça, c'est deux choses. Là. Ce que je vous ai montré, c'est exposer dans le dock et minimiser l'icône dans l'application du dock. Mm-hmm. Le premier se fait en allant dans les préférences dock et activer la minimisation de l'icône la deuxième, effectivement, c'est exposer à partir du dock. Donc, comme Laurent le disait, il faut faut cliquer sur l'icône de Safari, par exemple, dans le dock. À ce moment-là, exposer va s'activer seulement pour les fenêtres de cette application-là.
D'accord.
Okay. Le numéro 4.
Le numéro 4, donc, c'est sur les mini-icônes qui sont dans la barre de menu en haut de l'heure, en particulier l'icône AirPort, l'icône Bluetooth et l'icône de synchronisation. Oui. Dans 10.5, bon, on peut cliquer dessus et avoir un certain nombre d'informations. Maintenant, dans 10.6, si on tient la touche Alt enfoncée, à ce moment-là, on va avoir plus d'informations. Okay. Donc, je vois que Laurent est en train de l'essayer, justement. Ça donne les informations, bon, le SSID du réseau sans fil sur le Bluetooth. Oh, ça donne la version Bluetooth des outils de diagnostic. Et sur l'outil de synchronisation, ça va donner à quelle heure et quand les dernières synchronisations se sont faites.
Hey, c'est cool. Quand tu le fais sur ton volume, tu peux choisir ton line-in au lieu de internal microphone, au lieu de toujours aller dans les préférences.
Je ne sais pas si ça fonctionne, par exemple, avec des consoles externes d'entrée de son, peut-être.
Faudrait voir.
Ça peut être cool.
À essayer. Numéro 5.
Numéro 5. Donc, quand on fait clic droit sur un fichier ou contrôle-clic sur un fichier, le premier item, c'est toujours ouvrir. Et le deuxième, c'est ouvrir avec. Vous me suivez jusque-là?
Mm-hmm. Oui.
Excellent. Si, une fois que le menu déroulant est ouvert, on tient la touche Alt enfoncée, le menu qui s'appelle « Ouvrir avec » change de nom pour « Toujours ouvrir avec ». Donc, par exemple, un fichier AVI, on vient de télécharger VLC sur notre ordinateur et on veut associer les fichiers AVI à VLC parce qu'on veut toujours les ouvrir avec ce lecteur gratuit open source et qui lit n'importe quoi. À ce moment-là, plutôt que de cliquer sur le fichier AVI, de faire pomme I pour sortir les propriétés, si vous voulez, ou les informations, associer le fichier AVI à VLC, on peut le faire de cette manière-là. Donc, clic droit dans un premier temps, et après ça, on tient la touche Alt, le menu va changer de nom.
Excellent.
C'est un peu la même chose dans le temps de macOS, là je recule en arrière, macOS 8, on pouvait tenir Alt pour vider la corbeille, pour forcer genre la suppression de tous les éléments sans avoir à confirmer quand ils étaient justement verrouillés.
Ben, sur Internet, on peut trouver, il y a un livre au complet, un livre web qui existe sur simplement la touche Alt. Puis il y a au-dessus de je ne sais pas combien de fonctionnalités qui sont expliquées simplement avec cette touche-là.
La touche Alt est magique.
Si on n'avait pas la touche Alt, on l'inventerait.
Oui, il faudrait. Numéro 6?
Et final?
Numéro 6, c'est un truc un petit peu plus évolué pour ceux qui trippent Apple Script. Donc, le truc, c'est une utilisation très, très simple de Apple Script. Dans un premier temps, il faut ouvrir l'éditeur Apple Script et faire un script tout simple qui est set volume 0. Donc, ça s'écrit SET volume 0. Oui. Ensuite, on sauvegarde le script quelque part. Et après ça, dans un événement iCal, quand on rajoute une alarme, on peut utiliser l'alarme pour faire rouler un script. Ce qui fait que, par exemple, vous savez que vous allez à une conférence, c'est écrit dans votre iCal, la conférence commence à telle heure, bien, vous demandez à l'alarme 5 minutes avant de faire rouler ce script-là. Comme ça, vous vous assurez que votre ordinateur, tout le volume se retrouve à zéro et qui ne dérangera pas pendant la conférence. Donc, de rendre, si vous voulez, silencieux votre ordinateur.
Oh là, c'est assez poussé comme c'est assez poussé comme utilisation. Hein.
Non, nous, on aime ça déranger. On ne voudrait surtout pas ne pas déranger. Non,
surtout c'est Laurent Lassalle.
Oui, c'est okay. Ça.
Ben, merci, Alexis. En tout cas, c'est très utile. On en a appris un petit peu plus sur Snow Leopard. Ça nous vous a fait très plaisir. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler.
Sûrement. Hein.
Si on se reparle, je vais vous parler probablement de Skype à ce moment-là.
D'accord.
OK. Allez, tu vas régler tous nos problèmes, c'est ça?
Voir quelques-uns.
Merci.
Je vous dis salut.
À très bientôt, Alexis. Salut.
Au revoir.
Hey. Ah, c'est bien. On a le retour des interviews Skype, là.
Mais oui, ça fait du bien une fois de temps en temps.
Oui, et puis on a quelques autres noms intéressants aussi là, qui devraient venir pour les prochaines émissions.
Et oui.
Il faut rester à l'écoute.
Continuons avec nos sujets principaux.
Oui.
Apps for Everything. Oui, évidemment, c'est en anglais, donc c'est Monsieur le Français.
On en a un peu parlé tout à l'heure. J'ai cherché la traduction en français, là. Puis je crois que même sur la version française de l'iTunes, ça, c'était un peu écrit comme ça.
C'est la fameuse campagne de pub.
C'est le nouveau rangement. On en a parlé tout à l'heure, le nouveau rangement sur l'App Store par thématique. plutôt que par liste, qui permet plus facilement de trouver une application. Mais ça ne résout pas le problème que maintenant, on est à plus de 80 000 applications. Ouais. Et c'est très difficile en tant que développeur de sortir du lot et en tant qu'utilisateur eh ben, d'avoir plus que les 20 ou 50 premières applications.
Mmh. C'est bien. Ensuite de ça,
Flash sur iPhone.
Flash sur iPhone.
Ça, c'est cool.
Ça, c'est cool. Alors, hier, Adobe...
Ouais. Non, mais c'est son sujet. Lui, ouais.
Écoute, j'ai presque pas de sujet cette fois-ci. Laisse-moi.
Excuse-moi.
Non, mais en fait, Flash pour iPhone, c'est pas nécessairement pour voir des choses dans le navigateur Safari pour iPhone. Ils s'en servent pour fabriquer des applications ou reformater du contenu web pour le rendre accessible comme application. Donc, c'est intéressant, mais est-ce que ça ne veut pas dire que tout le contenu qui est en flash sur des sites web va être visible sur iPhone?
Non, c'est ça. C'est que le principe, je pense, c'est que tu peux produire une application iPhone à partir de Adobe Flash Pro CS5.
Oui, puis tu peux prendre quelque chose qui est en flash sur ton site web et le reformater pour faire une application
aussi.
iPhone.
Ouais, okay, c'est pour que ça devienne une application.
C'est surtout, je pense, à destination des développeurs Flash pour leur dire hey, restez sur Flash parce que ça vous permet de faire des applications iPhone.
C'est une très bonne initiative, je pense. Oui. Parce que, en tout cas.
Parce que justement, on leur reprochait, bon, on ne sait pas à qui on reprochait, à Adobe ou à Apple, de ne pas être sur. Que Flash ne soit pas sur iPhone. Problème de comptabilité. Puis là, ils disent, si on arrive quand même à être présent, puis on arrive à être encore incontournable dans le domaine, puisqu'on vient de créer cette fonction qui permet de créer automatiquement une application iPhone avec Flash.
Ce que je trouve vraiment fascinant, c'est qu'on accuse toujours, justement, les sites en Flash ne sont pas accessibles. Google ne les voit pas, il faut créer un site miroir, ou du moins, il y a des développements autour de ça, mais Flash est toujours accusé comme quoi que c'est pas accessible. Là, ils sont en train de prendre un contenu, puis ils sont en mesure de le compiler pour que ça fonctionne sur un appareil. Peut-être qu'éventuellement, il va y avoir une version pour un autre appareil.
Mais tu sais comment que le problème, c'est pas Flash, c'est les gens qui s'en servent pour fabriquer des sites web.
Oui, je le sais, mais c'est intéressant de voir cette twist-là. Moi, en tout cas, ça remonte un peu Flash dans mon estime.
Et dans les gens qui sont en train de nous suivre live via le stream, il y a M. Pierre Journel qui nous salue. Donc, on lui salue en retour, juste comme ça. Salut Pierre.
Comment ça, les moc-moc?
Les moc-moc. C'est lui, là.
Oui, je pense.
C'est lui, le moc-moc. Non. Donc, application iPhone CNN.
Yes, application.
Devenir un journaliste. CNN?
Oui, ben ça...
C'est quoi cette affaire-là?
Moi, ça m'intéresse beaucoup tout ce qui est médias, journalisme citoyen ou participatif. Et CNN, qui est très actif sur le web, on le sait, vient de lancer une nouvelle application iPhone, parce qu'ils en avaient déjà une où ils publiaient leur information. Alors là, l'application est très, très riche. Il y a du contenu texte, images, vidéos. On peut avoir le live de CNN sur son application iPhone, donc c'est très bien. Et également, on peut faire du journalisme participatif slash citoyen, par exemple en prenant des photos ou même des vidéos qu'on leur envoie, et là, ça va sur leur plateforme participative qui s'appelle iReport.com. Et donc, on peut devenir en quelque sorte un journaliste CNN avec son iPhone. Donc, je trouve ça très fort. Ce qu'il faut savoir, ce n'est pas une nouveauté. Il y a CitizenSide, qui est un site basé en France, mais international, qui propose déjà d'être journaliste citoyen par l'intermédiaire de son iPhone. Il y a Branchez-vous, qui a lancé son application cette année, qui permet d'envoyer une photo d'un événement et l'envoyer directement sur le site de Branchez-vous. Mais là, on atteint une étape supplémentaire, le fait qu'on puisse envoyer la vidéo, bien sûr avec les 3GS, et puis le fait que ça va sur iReport, qui est une marque renommée, puisque c'est la marque de CNN.
Oui, parce que c'est sûr que CNN, c'est quand même la plus grande agence de nouvelles, même si avec ses bons et ses mauvais côtés, et le fait que sa crédibilité est parfois critiquée, mais ça reste qu'ils sont très présents, puis tout le monde dans le monde est sur CNN.
Depuis la première guerre du Golfe, CNN est devenu un incontournable de l'information internationale, comme tu dis, avec ses bons et ses moins bons côtés. Mais là, c'est un signe fort, surtout, moi, je trouve qu'il lance aux médias et à la profession de journaliste. De toute façon, ce n'est pas un combat entre journaliste citoyen et puis journaliste professionnel. Ça peut dire que cette information participative peut être valorisée, même par un très grand média comme CNN.
Oui, et c'est très bien, mais il essaie de plein de choses. L'intégration avec Facebook Connect, entre autres, et tout ça. Bref, il y a certains médias qui devraient jeter un coup d'œil du côté de CNN.
Malheureusement, ce n'est pas valide pour les Canadiens parce que ça marche uniquement pour les États-Unis.
Ouais. Aha.
Dommage.
iWork aussi a été mis à jour. Est-ce que qui voulait en parler?
Oui, iWork a été mis à jour et franchement, j'ai pas grand-chose à dire.
Autre qui a été mis à jour. Mais est-ce que vous en servez, vous autres, de iWork?
Moi, je connais quelqu'un qui s'en sert. Je veux dire, Alexis, ses notes étaient sur iWork, mais ouais. Sinon, non, moi, je n'utilise pas. Ouais, mais... J'utilise les logiciels. Est-ce qu'on parle d'iWork.com ici? Oui, c'est ça. Moi, j'utilise les logiciels Pages, Keynote, mais ouais. iWork.com, j'utilise.
Okay. Ah, ben
c'est. Mon laptop, là, non?
iWork.com, oui, qui est la version en ligne de iWork et que Alexis Cornelier, qui est intervenu tout à l'heure, utilise pour partager des documents et puis pour faire du travail en ligne.
Ouais. C'est un compétiteur à Google Docs.
C'est ce que
je... Il y a tellement de gens sur Google Docs. Et puis, c'est beau l'intégration Apple.
Google Docs est quand même... Ben, ce qui est bien, c'est qu'iWorks.com, on retrouve, pour ceux qui sont habitués à iWork, on retrouve un peu la même chose avec les logiciels. C'est intégré directement. Mais Google Docs est quand même nettement plus puissant.
Ben, c'est ça. Puis ouais. iWork.com, je pense, nécessite quand même qu'on soit abonné encore à... Pas .Mac, là, mais l'autre. Là.
Bumble.me? Ouais.
Mais on peut mettre des commentaires sans être abonné. Moi, je peux t'envoyer...
Est-ce qu'on peut fabriquer de contenu, c'est ça que je veux savoir?
Non.
Ben, c'est ça. Fait que, Google, c'est gratuit. C'est dur à battre le gratuit.
Ouais. Ouais, c'est difficile d'être moins musique, cher que gratuit c'est aussi. Hein.
C'est gratuit et légal.
Ouais.
C'est la deuxième chose.
Beltelus compatible iPhone.
Oui, ça, c'est une nouvelle qui est tombée sur les tablettes hier ou ce matin, je ne me rappelle plus.
C'est drôle parce que je l'avais déjà mis dans les rumeurs, fin de l'exclusivité du iPhone chez Rogers.
Alors, ça, c'est deux...
Ça a été confirmé.
C'est deux choses différentes.
Ah, deux choses qu'on...
Ben, non.
Tu parles juste de la compatibilité.
Voilà.
Ouais, là, on tombe sur le réseau.
Le réseau de Bell et Telus, puis ça, c'était un peu prévu, on s'y attendait,
ouais,
qu'à la fin de l'année, là, ils annoncent novembre 2009, donc dans un mois, leur réseau sera compatible. Si j'ai un iPhone débloqué et que je prends un abonnement chez Bell, je pourrai utiliser mon iPhone sur le réseau de Bell / Telus. Par contre, la rumeur du fait qu'ils vont vendre des iPhones, ça reste encore une rumeur.
Oui, ben que eux vont en vendre particulièrement, ça demeure une rumeur, mais la fin de l'exclusivité, ça devient plus qu'une rumeur. Là,
C'est parce que c'était une exclusivité forcée, étant donné que Rogers avait de toute façon le monopole du réseau GSM. Apple n'avait pas le choix de faire affaire avec eux. Mais si Rogers décide, en voyant la menace Bell et Telus, de payer pour l'exclusivité, je veux dire, il n'y a rien qui va leur en empêcher.
Oui, de toute façon, ils ont les moyens quand même parce que au prix qu'on paye nos forfaits,
ils sont ramassés, je pense, un petit magot.
Léger. Aux rumeurs du jour, rafraîchissement imminent d'une gamme de Mac.
Oui, ben c'est ça, le iMac, le Mac mini, le MacBook sont sur le point d'être rafraîchis. Ça veut dire mise à jour probablement physique. Donc, on parle que le iMac et le MacBook seraient plus minces. Là, le MacBook ici, faut savoir que je parle de l'appareil blanc qui se vend encore.
Ouais.
Parce que là...
On parle pas du Pro. Là,
le MacBook 13 pouces qui l'ont rendu un petit peu métallisé, etc., ils ont changé son nom, c'est devenu un MacBook Pro. Ouais. Mais il reste encore le MacBook régulier qui devrait être rafraîchi. Puis bon, évidemment, il va être plus performant. Ils vont trouver moyen de rendre ça tellement plus intéressant. sinon, le Mac mini va être plus performant et moins cher. Moi, j'étais convaincu, puis plusieurs rumeurs dernièrement suggéraient que le Mac mini allait prendre le bord.
Ouais.
Là,
moins cher, ça serait bien quand même.
Ouais. Il est déjà quand même pas si cher.
De se débarrasser du Mac mini?
Il est à 800$ sans écran, le Mac mini.
Ben oui, non. Il a commencé à 500, ils l'ont augmenté, puis là, ils vont le redescendre. Il me semble que ce n'est pas dispendieux, Mac mini.
Mais pour moi, c'est du 800$.
Oh, oui, c'est
donc,
parce que
il faudrait aller vérifier.
Tu poses la RAM chez Apple. Je vous rachète de la RAM ailleurs.
Non, le prix de base,
729
plus taxes. OK, bon.
Okay. Ouais, quand même.
Parce que je me rappelle, moi, je l'avais acheté quand il avait été introduit.
Oui, il a déjà été... il était comme 499 ou 599, c'est pas cher.
Avec les taxes, on est à 800$.
Oui.
Donc, il pourrait être plus compétitif.
Je suis complètement d'accord.
Oui, tout à fait.
Donc, voilà pour cette rumeur.
Oui, ensuite, ben encore une rumeur de Apple Tablet, de iTablet. La nouvelle rumeur, c'est?
Ben, la dernière rumeur, c'est la taille qui serait de 10,2,7 pouces et une sortie le 19 janvier 2010.
Alors, 19 janvier, c'est très précis,
c'est,
ça.
C'est très précis. Il doit y avoir un événement, je ne sais pas.
Ben, le 19 janvier, avant, il y avait le Macworld. Mais le Macworld avait toujours lieu en même temps que le CES.
Mais il y a un keynote, en tout cas, d'Apple à cette période.
Oui, avant, ils l'avaient. Ouais. Le Macworld, Apple participait. Mais ils ont dit l'année passée qu'ils ne participeraient pas. Fait que là, c'est pour ça qu'on avait parlé. Je pense que ce n'est pas la dernière émission, c'est l'autre émission d'avant qui aurait possibilité du retour de Steve Jobs prévu pour le CES. Mais là, on l'a eu avant.
On a eu notre tour. Maintenant, c'est
notre tour. Est-ce que Apple participera au CES, qui était l'espèce de conférence compétitrice à côté? Ça, c'était la question. Mais la date correspond avec la date de la rumeur.
Et on parle de deux versions, 3G et non 3G. Ce qui peut être intéressant, mais une version 3G d'un Apple Tablet, c'est comme un gros iPhone, finalement.
Oui, non, mais c'est ça. C'est...
Oui, à peu de choses près.
Les questions aussi, c'était autour de l'abonnement. Est-ce que comme le Kindle, Kindle qui est un peu un iTablet qui a été développé, vendu par Amazon, qui a une connexion Internet incorporée, c'est-à-dire tu l'achètes, tu as ta connexion Internet, eux, ils se font de l'argent en vendant après des livres électroniques. Est-ce qu'on aura la même chose? C'est-à-dire que la connexion sera 3G, mais
ouais,
tu achètes plus cher là, et tu ne payes pas d'abonnement? Ou est-ce qu'il faut payer en plus un abonnement? Et là, ça risque d'être très cher au Canada.
Sûrement qu'il risque d'avoir un abonnement. En tout cas, Rogers va s'en mettre plein les poches encore une fois. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais tu sais que il y a plusieurs personnes qui... des compagnies qui publient du média qui attendent de voir l'apparition du Apple Tablet avant de se lancer dans le livre électronique et les plateformes électroniques, justement parce que plusieurs espèrent que ça ait le même effet que le iPod a eu au niveau de la musique, que le Apple Tablet ait le même effet au niveau, par exemple, du livre électronique, du contenu électronique.
C'est très d'actualité, hein, parce que la semaine dernière, à Montréal, on a eu la conférence ePaper World, qui est l'une des plus grosses conférences, justement, sur le livre électronique. J'ai eu le plaisir d'y faire une conférence, d'ailleurs, sur les modèles et les modèles économiques, là, avec ma casquette, il s'enfile. Mais c'est tout à fait d'actualité. Il y a le Kindle qui fonctionne très bien aux États-Unis, qui n'est pas encore en vente au Canada. On a plusieurs...
Il fonctionne très bien aux États-Unis.
Oui, il fonctionne très bien aux États-Unis. Ils font de l'argent avec.
Okay.
Donc, pour moi, s'ils font de l'argent, c'est que ça fonctionne bien. On a Sony qui sort des nouveaux lecteurs. Toujours l'histoire de l'œuf ou la poule. Est-ce qu'il faut le support? Est-ce qu'il faut l'offre? Mais en tout cas, même au Québec, on a déjà des éditions qui proposent la version électronique, la plupart du temps en PDF. Mais c'est un marché qui est amené à se développer grandement.
Good. Two Touch chez Apple.
Alors, on est toujours dans les rumeurs sur des télécommandes qui seraient touch. C'est-à-dire, on aurait des
et qu'il y aurait un écran sur la télécommande?
Oui, okay. On aura un écran. Ben, vous connaissez la petite télécommande pour les Mac, les MacBooks, qui était offerte au début, moi, quand j'avais acheté mon premier MacBook, qui n'est plus offerte maintenant, et qui est un peu vieillotte parce qu'elle est très basique. Donc, on parlerait d'une télécommande pour ça. On fait le lien avec une autre rumeur qui est le remplacement de la souris d'Apple et des claviers actuels qui pourraient intégrer également des touch, des zones touch, même sur une souris, pour remplacer le
petit bouton. Oui, il y a une rumeur bouton, de remplacer le bouton par une fonction touch.
On aurait du touch à toutes les sauces, finalement, à suivre.
Du touch à la bolognaise à toutes les sauces, ça risque d'être très bon.
Ça va être bon.
Tu as parlé de la souris. On va parler des autres petites nouvelles en vrac. Google Chrome, qui veut en parler?
C'est moi qui en parle, parce que je dois être l'un des seuls à l'utiliser sur Mac, qui est toujours en version bêta et qui est annoncé officiellement pour la fin de l'année sur Mac, alors qu'on en est déjà à la troisième version sur PC. J'en parle parce que je pense que c'est vraiment un explorateur, un navigateur Internet à suivre. Et qui amène une concurrence alternative intéressante à Firefox.
2 milliards de téléchargements sur Apple Store.
Ben, cette année, on a fêté les 1 milliard. On en avait parlé, il me semble. Hein,
leur, mais ça fait pas si longtemps que ça. Hein.
Donc, c'est exponentiel. Ouais. Carrément.
Il y a plus d'infini.
Non, c'est un vrai succès.
Palm et la synchronisation.
Oui, on en avait parlé. C'est pas la dernière émission, c'est l'autre émission d'avant. Quand on parlait du Palm Pre qui se faisait passer pour un iPod aux yeux de iTunes, évidemment, Apple, comme par hasard, a réglé ce petit problème à chaque fois avec les mises à jour. Puis là, on parle de iTunes 9. Palm aurait réussi à lancer un firmware pour mettre à jour l'appareil Palm Pre pour faire en sorte que la synchronisation soit réapparue comme par magie. Donc, c'est ça. Ils vont toujours se courir après. C'est l'œuf et la poule.
Oui, encore une fois. J'ai un petit sujet. Parler d'installer Snow Leopard facilement sur un PC. En fait, c'est une compagnie qui fait un petit logiciel qui nous permet, par exemple, d'installer Snow Leopard sur des ordinateurs PC non Apple. Et sans problème, il fallait faire une image disque sur une carte flash avant si on voulait le faire, puis c'était pas tous les modèles qui étaient compatibles. Là, maintenant, il y a une grande compatibilité de modèles. Et en plus de ça, bien, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on installe ce petit truc-là et on entre le CD d'installation de Snow Leopard et on l'installe comme sur un Mac normalement. Donc, est-ce qu'on verra plusieurs PC avec un système d'exploitation Mac très bientôt? C'est ce qu'on va voir.
Est-ce que Apple va autoriser ça longtemps?
Je sais pas. Est-ce qu'il tolère? Est-ce que c'est légal? Je sais pas.
On a des prix de ce logiciel?
J'essaie de trouver l'information. Il faudrait aller faire un tour. La compagnie s'appelle Paystar.
Paystar, oui.
Oui. Psystar.
Psystar,
oui. Ouais. Oh, ça me dit quoi ce nom-là? C'était pas eux qui faisaient des clones de Mac avant?
Oui, exactement. Ah. Exactement. Ils continuent à cloner Mac, mais bon, simplement mais au niveau...
Là, ils permettent à tout le monde de cloner son Mac. Quoi.
Oui, tout à fait. Donc, ça peut être intéressant, comme si les gens aiment le système Mac, mais bon, ils ne veulent pas se payer une machine qui coûte trop cher. Ça peut être intéressant.
Mais moi, j'ai une nouvelle.
Vas-y.
Je viens de recevoir... Oh, bon, vous savez que j'ai ma casquette, il s'en file.
Mais t'apportes pas, là.
Je vous en parle. Et nous allons lancer une application iPhone, il s'en file, qui va permettre de découvrir les points d'accès, il s'en file, qui sont près de chez nous. Là, donc, sur l'iPhone, ça va utiliser le GPS, mais ça va être également compatible iPod Touch, c'est-à-dire qu'on aura en mémoire la liste des points d'accès. Il suffira de mettre votre adresse et vous aurez le point d'accès. Et là, j'ai les photos de la première bêta. Je t'enverrai les photos, Laurent, comme ça tu pourras le mettre sur le podcast. Là. Mm-hmm. Les gens verront l'illustration. Donc, on va commencer à tester la bêta cette semaine avec une application qui va sortir d'ici un mois. Restez connectés.
C'est bien. Hey, ça termine un peu notre émission
du 6 octobre. Ça fait le tour de tous les sujets.
Ça fait vraiment le tour. Je ne sais pas quand sera notre prochain rendez-vous. Attendez un peu que j'aille sur mon calendrier. En théorie, ce serait le 20 octobre. Et cette fois-là, on essaiera de débuter vraiment à 13 heures.
Promis. Donc, puis c'était en partie de ma faute parce que j'avais été un peu trop ambitieux sur la diffusion live, puisque vous pouvez nous suivre en live sur Ustream. Et la bande passante, même si elle est magnifique avec une sans fil, elle ne permet pas en Wi-Fi d'utiliser, on va dire, du haut débit ou une caméra en très bonne qualité. Donc, mea culpa, on va rester modeste avec une webcam qui est quand même d'excellente
qualité. Qui fait quand même le travail pour nos besoins. Donc, on se dit à très bientôt. Mon nom est Sylvain Grandmaison. Vous pouvez me trouver encore une fois sur québecbalado.com, phono.ca et partout sur le web.
Sur Twitter.
Sur Twitter, S Grandmaison. Tout simplement. Et toi, maintenant, c'est,
ouais,
c'est
Laurent.
Laurent, tout
court.
Simplement.
Ouais, tout j'aime ça raccourcir les choses.
Mmh. Mais moi c'est The Laurent, Laurent, puis TheLaurent.com pour me suivre sur mon blog. Ça me fera plaisir.
Sinon, allez faire un tour sur le site de Mac Québec. C'est macquebec.com. C'est facile à retenir. Hein? Sinon, on a un compte aussi Mac Québec sur Twitter qui est Mac Québec, je crois.
Tout simplement, oui. Sur Facebook également, vous pouvez rejoindre la fanpage, la page des
fans. Oui, la toute nouvelle fanpage de Mac Québec.
Donc, on vous dit à très bientôt. Merci d'avoir écouté et ciao!
Ciao!
Bonne nuit!